Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Nintendo. Alors une fois de plus, on est en compagnie d'Ayou. Bonjour Ayou.
Bonjour Woodmat.
Et qui dit Ayou, bien sûr, dit GameCube. On va continuer à parler de la GameCube. Donc je vous invite à écouter les deux précédents épisodes qu'on a réalisés avec Ayou, dans lequel on revenait sur le lancement de la console et la console en tant que telle. Et dans le précédent épisode, on a commencé à parler de tes 10 jeux qui t'ont le plus marqué. Et aujourd'hui, on va parler des 5 jeux, donc les tout meilleurs jeux qui t'ont le plus marqué sur cette console GameCube. Donc est-ce que t'es prêt, Ayou?
Tout à fait.
Alors c'est parti, donc on recommence là où on s'était arrêté et donc on va repartir en cinquième position. Donc quel est le jeu que tu placerais à la cinquième position de ce top 10 des jeux GameCube?
Alors pour la cinquième position, je pensais tout de suite à la série des Mario Party et plus particulièrement le 5. Alors pourquoi le 5? Parce que les ayant tous joués en fait, sauf le 9, et je pense que quand même, sur GameCube, il y a eu 4 Mario Party, donc le 4, 5, 6, 7. Et le 5, je trouvais qu'au niveau des plateaux, c'était celui qui était le mieux construit, qui offrait des plateaux vraiment variés, mais tous intéressants, ce qui n'était pas le cas forcément des autres, où on a toujours un plateau qu'on aime, un plateau qu'on déteste, alors que dans le 5, étrangement, tous les plateaux passent plutôt bien et ils sont tous intéressants. Donc Mario Party, donc je rappelle, mais le principe c'est un jeu multi à la base, donc à 4 joueurs on joue et on essaye de battre l'autre, de battre les autres sur un jeu de plateau qui ressemble un peu à celui du jeu de loi. Donc ça se passe par tour et en fait celui qui gagne le plus d'étoiles en fin de partie est nommé le vainqueur. Donc pour acheter ces étoiles, il faut des pièces. Alors une étoile coûte en général 20 pièces, mais ça peut varier en fait en fonction des plateaux. Il y a des plateaux qui vous demanderont tout à fait autre chose, pas forcément de les acheter. Mais on reste toujours dans cet objectif d'être le premier. Et donc ça se fait aussi à travers des mini-jeux qui en fin de tour viennent ponctuer la partie. Et on trouve pour chaque opus des mini-jeux tout à fait différents. Bon, certains se ressemblent d'un opus à l'autre, forcément, mais on en trouve quand même pas mal. Et dans Mario Party 5, justement, je crois qu'il y en a 70, si je ne me trompe pas. Et j'ai beaucoup aimé le 5. Du coup, c'est pas forcément pour ces mini-jeux, mais c'est vraiment pour ces plateaux. Je trouve que c'est celui qui représente le mieux la série, sur GameCube du moins, parce qu'il est soigné. Je le trouve un peu plus joli que les autres aussi. Je trouve qu'il a un aspect pastel plutôt sympa qui passe bien et les plateaux sont magnifiques quoi. Alors, pour la petite histoire du 5 en fait, c'est Mario et ses amis qui vont se retrouver à Havre Étoile et qui vont devoir aider les esprits étoiles à vaincre Bowser. Et en plus c'était sympa parce que ça s'inspirait de Paper Mario sur 64 où on retrouvait justement ces 7 esprits étoiles qu'on retrouvait sur 64. Et donc je le trouve franchement au niveau de la bande son, des graphismes vraiment soignés, vraiment beau, et même les mini-jeux, les arrière-plans, c'est pas fait à l'arrache quoi. C'était Hudson qui s'occupait de la licence à l'époque jusqu'au 8, parce que maintenant Hudson appartient à Konami et puis n'existe plus vraiment, encore un sacré studio qu'on perd, mais bon c'est comme ça. Mais je trouve que franchement Mario Party 5 c'est le hit à avoir pour les parties, pour les soirées entre amis.
D'accord, c'est vrai que Mario Party c'est quand même un jeu vraiment qui met en valeur le jeu entre amis en soirée, vraiment le jeu fun, pas forcément le jeu qui va récompenser le meilleur joueur, mais un jeu où tout le monde peut gagner. donc ce Mario Party, par rapport aux autres Mario Party qui sont sortis sur GameCube, notamment, alors je sais plus, c'était le 7 qui proposait un micro, je crois.
Non, c'était le 6 en fait.
Le 6, d'accord.
Micro à la base. Alors oui, le micro, en fait, c'était sympa parce qu'on pouvait. Mais le micro était plus accessoire en fait. Il n'était pas au centre du jeu, mais il y avait des modes avec ce micro où justement, en parlant dans le micro, on faisait quelques mini-jeux et on pouvait. Voilà, il était aussi inclus. Si je veux dire, dans les parties entre amis, on pouvait l'activer ou ne pas l'activer. Certains mini-jeux s'en servaient, mais on pouvait aussi très bien jouer les mini-jeux micro au pad, quoi. Donc c'était pas non plus le truc qu'il fallait absolument avoir le micro. Mais c'était un effort de plus pour un peu varier le jeu, je dirais. C'était plutôt sympa, mais c'est pas ce qui m'a marqué de plus, en fait, dans les Mario Party. Le 5 n'a pas de micro et je trouve qu'il s'en sort aussi bien, quoi, par exemple.
Oui, et puis en plus, moi, dans les souvenirs que j'ai, le micro, la reconnaissance vocale du micro ne marchait pas forcément de façon optimale. Et des fois, on pouvait dire le nom d'un fruit, par exemple, et il en reconnaissait un autre.
Oui.
Ou alors, on disait blablabla, et il finissait par comprendre n'importe quel fruit et valider la réponse. Donc, ouais, c'était finalement peut-être ce Mario Party 5, le dernier Mario Party vraiment conventionnel, avant l'arrivée de ce Mario Party donc avec les mini-jeux au micro, puis les Mario Party Wii avec des mini-jeux à la Wiimote, avec la détection de mouvement, etc.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais le 5, oui, était vraiment classique. Et je trouvais que justement, il reprenait un peu le 1, le 2, le 3, le 4. Mais. En améliorant un peu le tout, et finalement, c'est un peu le représentant, je trouve, d'une génération de Mario Party, je dirais.
D'accord, donc n'hésitez pas à le découvrir. On rappelle au passage que, bien sûr, la Wii est rétrocompatible GameCube et que vous pouvez jouer à tous ces jeux sur votre Wii, sous réserve que vous ayez des manettes GameCube. Oui. En tout cas, si vous avez acheté la Wii il y a au moins un an, puisque la Wii qui est actuellement en vente n'est plus rétrocompatible GameCube.
Oui, plus du tout. Ils vendent pas deux modèles, non ? Ils vendent qu'un modèle sans rétrocompatibilité ?
Oui, non, je crois que le dernier modèle n'est plus rétrocompatible, n'a plus les ports de manette GameCube et de carte mémoire. Donc c'est vraiment impossible d'y rejouer. Donc là, peut-être qu'ils préparent la suite avec peut-être des jeux GameCube en téléchargement sur l'eShop de la Wii U, peut-être, on ne sait pas.
Je pense qu'on aura le droit, oui.
Reconnaissant Nintendo, on y aura droit. Oui.
Peut-être avec justement l'envie de les revisiter, peut-être qu'ils ajouteront des succès, ou je ne sais pas.
Oui, d'ailleurs, on se souvient qu'il y a quelques jeux qui ont été adaptés sur Wii avec la gamme Nouvelle Façon de Jouer,
oui.
Avec Mario Tennis, les Pikmin, etc., qui ont été adaptés pour profiter de la jouabilité à la Wiimote. Donc peut-être qu'on aura aussi des sortes de remakes sur Wii U de jeux GameCube.
Oui, voilà.
On va continuer ton top 10 avec le jeu en quatrième position, un gros jeu, j'ai envie de dire, un jeu vraiment gamer pour le coup.
Oui, alors Baton Kaitos, alors ça c'était vraiment un sacré jeu, et là encore c'est un peu étrange, mais je ne l'ai pas apprécié à sa sortie, je le voulais, et à sa sortie, non, je ne l'ai pas apprécié. En fait, c'est que depuis très peu de temps finalement que j'ai découvert vraiment Baton Kaitos, mais je pense qu'il y a une raison derrière tout cela. Et je vais expliquer assez clairement, c'est que c'est quand même un jeu assez difficile. C'est pas un RPG où on aide vraiment le joueur, où on le tient par la main. C'est plus un RPG où il faut, il faut se débrouiller seul et apprendre le système de combat, comment il fonctionne, pour s'en sortir et avancer. Puisque du coup, le système de combat qui était aussi d'ailleurs assez novateur pour l'époque finalement, puisque on se battait avec des cartes. Et donc, il fallait faire des suites de cartes, par exemple 1, 2, 3, 4, ou alors à l'envers aussi, 4, 3, 2, 1. Et avec ces cartes, donc chaque personnage possédait son deck, et on pouvait mettre jusqu'à 30 cartes dans chaque deck, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, en fonction des combats, on avait. Du coup, les combats étaient avec 3 personnages, et chaque personnage lançait ses cartes, donc il fallait bien gérer. Il fallait être assez rapide, puisqu'il y avait un compteur de temps aussi qui défilait, et on ne pouvait pas vraiment bien réfléchir. Pour lancer ses cartes, il fallait vraiment être rapide et connaître son deck pour être efficace. Donc, un jeu pas facile, mais par contre, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, qu'on adhère à l'univers qui est assez spécial, puisque les dessins, enfin, chaque plan du jeu était fait à la main, quoi, était dessiné à la base à la main, et franchement, on se retrouve avec un jeu, mais vraiment magnifique, quoi. Franchement, c'est un super jeu. Pas techniquement, puisque techniquement, c'est pas le plus beau jeu de la GameCube, loin de là, mais artistiquement, par contre, ça envoyait dur. Et du coup, je dirais aussi un truc. C'est que l'histoire, parce que peut-être que je raconte un petit peu l'histoire, mais qui finalement n'est pas très difficile à raconter, je dirais, c'est l'histoire de Kalas, un jeune homme, puisque tout le monde vit dans le ciel, en fait, et la Terre n'existe plus, et est recouverte de nuages, et du coup, tout le monde vit sur un continent dans le ciel, et du coup, les gens essayent de... Et Kalas, on incarne Kalas, pardon, qui va être mêlé à une histoire avec une princesse... princesse Xela, et l'histoire, mais vraiment, je peux pas vraiment la raconter parce que c'est assez difficile, parce que C'est peut-être bien le RPG le plus complexe que j'ai jamais fait, mais aussi le plus riche dans son univers, dans son histoire. C'est travaillé de bout en bout, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et c'est vraiment un super RPG. Mais il faut pas le mettre entre les mains de quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle parce que ça peut le freiner et il n'adhérera pas forcément au concept, quoi.
D'accord. Et donc, Baton Kaitos, on sait qu'il y a eu une suite. C'est Baton Kaitos Origins, il me semble.
Oui, fait. Alors oui, une suite qui n'a pas vu le jour en France.
D'accord. Est-ce que tu as pu l'essayer ou pas du tout?
Ah oui, bien sûr, j'ai le jeu.
Ah d'accord. Alors
ah oui,
qu'est-ce que t'en penses rapidement?
Moi, je trouve que rapidement, c'est Baton Kaitos en mieux, tout simplement. Alors avec un système de combat différent, encore plus exigeant, mais aussi une trame encore plus intéressante à suivre. Et qui se passe avant le 1. En fait, c'est une préquelle, 20 ans auparavant, donc on n'incarne pas les mêmes personnages, mais on comprend du coup mieux l'histoire des premiers personnages. Et non, franchement, ouais, c'est vraiment Baton Kaitos et Baton Kaitos Origin, c'est des super jeux. Par contre, Origin n'est pas traduit, et si vous le voulez, c'est en import américain. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top, parce que finalement, il est encore moins accessible que le premier, quoi. Mais il est
D'accord.
super aussi.
Ok, donc on continue donc avec. Donc là, on a un petit peu triché, puisqu'en troisième position, tu as mis deux jeux, deux RPG. Alors quels sont-ils?
Alors, il y a Skies of Arcadia Legend et Tales of Symphonia. Donc, on va commencer par Skies of Arcadia.
Voilà.
Donc,
Alors qu'est-ce qui t'a marqué dans ce jeu?
alors ce jeu m'a marqué. En fait, c'est un jeu à la base qui était sur Dreamcast, qui est sorti en 2000, je sais plus, 2003, je crois. Et c'est un jeu qui est sorti sur Dreamcast à la base. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls RPG Dreamcast qu'il n'y en a pas beaucoup sur la console, du moins d'intéressant, à part les Phantasy Star Online et Grandia 2 aussi. Mais Skies of Arcadia Legend était fait par un studio de Sega, le studio Overworks, un sacré studio d'époque. Et donc, Skies of Arcadia, alors c'est un peu similaire à Baton Kaitos dans son univers, puisque ça se passe aussi dans les cieux, sur des continents, sauf que c'est la piraterie ici. C'est-à-dire que tout le monde a des bateaux volants. Alors il y a des bateaux à voile, mais aussi des bateaux à moteur, et du coup des bateaux qui sont armés. Alors en fait, on incarne Vise, un jeune pirate de l'air, qui fait partie des voleurs bleus, pardon. Voilà, j'avais un trou de mémoire. Ans que je ne l'ai pas fait aussi, il faut me pardonner, mais j'avais un trou de mémoire. Donc du coup, il fait partie des voleurs bleus. Alors c'est une espèce d'organisation qui vole aux riches pour redonner aux pauvres, un peu à la Robin des Bois, quoi. Et ils sont confrontés à l'Armada Valuan. En fait, c'est l'empire qui dirige un peu le monde, quoi, et finalement et qui a à sa tête une reine et également un chef des armées qui lui s'occupe de l'armada justement. Et du coup, nos jeunes héros, Vise et Aika, son ami d'enfance, vont être confrontés à une attaque de leur part. Et du coup, ils vont rencontrer une jeune fille qui vient d'on ne sait où, qui s'appelle Fina, et qui finalement va être le centre du jeu et va relier tous ces personnages pour une sacrée histoire. Une grande histoire, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce jeu-là parce que il y avait les combats sont plutôt classiques, c'est du tour par tour, c'est plutôt lent. Il y a beaucoup de combats, c'est un peu la tare du jeu, trop de combats, des combats lents. Mais en contrepartie, on avait des batailles navales aussi qu'on pouvait faire. Alors avec les bateaux qu'on avait dans le jeu, plus vous avancez, plus vous avez un super bateau, et donc vous pouviez faire des grosses batailles, alors, au tour par tour aussi, mais c'était super bien fait et c'était vachement stratégique. Du coup, Skies of Arcadia, on lance, on s'arrête plus, quoi, parce que l'histoire fait rêver, les personnages sont peut-être, comment dire, des... Ah, je sais plus le mot.
Des caricatures,
ouais, des
peut-être.
stéréotypes, plutôt des
Voilà.
stéréotypes, mais sont tous vraiment attachants, et même une fois le jeu éteint ou le jeu fini, on pense toujours à cet univers dans le ciel, et c'est ça qui est bien magique avec Arcadia, c'est que des fois le soir, on peut voir un avion dans le ciel et on se dit, tiens, c'est peut-être un bateau finalement. Ça, il faut un peu être tordu, mais bon, moi je pense que Skies of Arcadia, c'est un sacré, sacré jeu. Sacré RPG du moins.
Donc un RPG japonais, c'est ça?
Oui, japonais, oui. Donc fait, alors ça c'est la petite anecdote, mais fait majoritairement par des femmes. Je crois que c'est 80% du studio à la base qui était dirigé par des femmes. Donc comme quoi, les femmes, elles font des sacrés bons jeux.
D'accord. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que c'était encore l'époque où il y avait un peu l'âge d'or du RPG japonais. avec donc des RPG avec, comme tu dis, un peu des stéréotypes, mais qui quand même ont peut-être plus de magie que les RPG occidentaux qui arrivent maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cette question des RPG ?
Pour moi, il n'y a pas trop de questions d'RPG. Je veux dire, enfin, j'aime pas vraiment les RPG occidentaux. Seul un m'a vraiment plu, c'était Oblivion. La saga Mass Effect aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment deux mondes différents, quoi. Le RPG occidental et le RPG à la japonaise. C'est deux mondes différents, mais je pense quand même que celui à la japonaise, il a toujours tendance à faire plus rêver, puisqu'il part toujours dans des délires. Mais justement, c'est ça qui est sympa, parce qu'après tout, quand on joue à un jeu, ce qu'on veut avant tout, c'est aussi rêver, changer les idées. Et le RPG occidental se prend peut-être un peu trop sérieux pour moi, je trouve. Mais bon, il y a des très bons jeux aussi, hein.
D'accord. Alors justement, parlant de RPG, donc l'autre jeu que tu as mis à cette position, c'est Tales of Symphonia. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi ?
Oui, pas de problème. Alors Tales of Symphonia, un jeu que j'ai aussi adoré. Alors c'est le premier Tales of qui est sorti chez nous, parce que c'est une série qui existe depuis oulala, sacré nombre d'années et qui n'avait jamais arrivé sur le sol européen, Et donc c'était aussi une exclusivité GameCube. Donc moi à l'époque j'avais eu à Noël dans un magazine Nintendo toujours fidèle, et j'avais eu le petit DVD. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Matt, mais il y avait un
pas
petit DVD.
Tout,
en fin d'année, tu avais toujours un petit DVD qui te montrait, si tu veux, les jeux qui allaient avoir l'année prochaine. Et du coup, dans ces DVD-là, il y avait à l'époque, je me rappelle, il y avait Resident Evil 4, la première intro, mais pas vraiment celle du jeu, une différente. Et il y avait Tales of Symphonia. Et j'avais vu cette intro tout en dessin animé, enfin tout en manga. Je l'avais trouvé vraiment énorme, avec une musique japonaise qui m'en mettait des frissons partout. Alors je me disais, là, c'est un jeu à suivre, Aurélien. Enfin, Ayou, faut pas le perdre de vue, celui-là. Et donc, j'avais vraiment attendu. Et puis, le jour de la sortie, je l'ai acheté, quoi. Et j'ai adoré Tales of Symphonia. Alors là, pareil, des personnages très stéréotypés, classiques. Mais par contre, ils sont bien sympas à suivre. Donc là, pour la petite histoire, c'est Colette qui est l'élue de Sylvarante à un monde et qui va faire son pèlerinage pour sauver le monde, si je me souviens bien. Et donc, son ami Lloyd, que l'on incarne, enfin, on peut incarner plusieurs personnages, mais le héros c'est Lloyd Irving, et donc on incarne Lloyd Irving et on essaye d'aider Colette. Et finalement, après, il y a tout un tas d'histoires qui vont arriver, et voilà. Et on va rencontrer des personnages assez charismatiques, parce que peut-être que c'est des stéréotypes, mais il y avait quand même là-dedans un qui s'en sortait vraiment du lot, Kratos Orion. Bah, lui, il envoyait sec de la classe, parce que lui, franchement, c'était vraiment un personnage très classieux qui parle pas beaucoup, qui est super. Super balèze, et franchement, ouais, je me rappelle de ce jeu-là aussi pour ce personnage-là, parce qu'il était vraiment impressionnant. Donc le jeu, autrement, c'était un action RPG, là, pour le coup. Alors du coup, action RPG, ça, ça reste à voir, mais quand on est sur la carte du jeu, du monde, en fait, les combats, on voit des petites bêtes, donc dès qu'on touche ces petites bêtes, le combat se lance, mais après, on est libre de ses actions dans le combat. Donc moi, je le classe quand même dans les actions RPG, parce que bon, voilà, on est quand même libre et ça va vite, quoi. Je veux dire, on tape avec les boutons, on fait des coups spéciaux, tout ça. Alors la montée de niveau, on peut monter jusqu'au niveau 250, je crois. Pareil, les New Game Plus sont super intéressants, parce que du coup on peut choper des nouveaux objets en recommençant la partie, parce que quand vous finissez le jeu une fois, vous gagnez des points qui vous permettent lors de votre seconde partie de sélectionner des nouvelles options, comme par exemple, je sais pas moi, avoir 500 points de vie en plus, garder tous vos objets ou plein d'options comme ça. Donc la replay value du jeu était vraiment excellente. Et graphiquement aussi, le jeu était joli, tout en cel-shading, mais c'était vraiment très très beau. C'est vraiment un super RPG, avec une durée de vie aussi énorme et un nombre de quêtes annexes assez conséquent, quoi.
D'accord, donc un jeu à conseiller aussi. Et donc après cette petite pause avec des jeux éditeurs tiers, on va revenir à des jeux vraiment made in Nintendo pour les deux jeux qui t'ont le plus marqué sur cette console. Or, quel est le jeu que tu placerais en seconde position, Ayu ?
Pour moi, en seconde position, c'est Paper Mario, la porte millénaire. Alors tout simplement parce qu'il y a Mario déjà, tout simplement, faut le dire, voilà, Mario c'est le héros que tout le monde aime et que j'aime plus que tout. Et là, retrouver Mario dans RPG, alors moi j'avais pas fait à l'époque sur Super NES le Mario RPG ni le Paper 64, donc du coup je découvrais un peu ce monde de papier et tout ça, et oui, donc en fait Paper Mario, un RPG où on retrouve notre ami Mario, mais aussi un RPG tout en papier, je dirais, enfin, avec un aspect graphique assez spécial où Mario est en papier, tous les personnages sont en papier, mais les décors, eux, restent en 3D. Et j'avais trouvé vraiment ça novateur et super beau, quoi. Franchement, et j'avais aimé le jeu aussi pour son histoire assez décalée qu'on ne retrouve pas souvent en RPG, parce que souvent c'est vrai que les RPG ça se prend un peu au sérieux, ça veut montrer une histoire de fin du monde, tout ça. Alors que Paper Mario, pas du tout, quoi. C'est vraiment, c'est d'ailleurs, ils sont tous coupés en chapitres, les Paper Mario, et à chaque fois c'est vraiment, on fait des trucs différents. Et là, par exemple, dans ce Paper Mario là, je m'en souviens, on retrouve Mario qui va s'engager pour faire du catch, quoi. C'est quand même assez énorme de voir ça, je veux dire. C'est marrant. Où il y avait quoi d'autre? Mario qui se retrouve coincé sur une île déserte avec un capitaine qui comprend rien et qui finalement veut se faire passer pour quelqu'un alors qu'en fait c'est qu'un trouillard. Enfin, c'est vraiment des situations cocasses et énormes. On en rigole devant sa console. Alors, avec un système de combat tour par tour assez classique, mais aussi ce qui était bien avec Paper Mario, c'est qu'il était vraiment accessible à tous, quoi. C'était made in Nintendo, quoi. C'est tout le monde peut y jouer, tout le monde peut s'amuser, mais quand même il y avait des subtilités et même quelqu'un qui fait beaucoup de RPG peut apprécier Paper Mario à sa juste valeur. Et c'est ça que j'avais aimé, avec une grosse durée de vie, plus que celui de 64. Et non, Paper Mario, je trouve que c'est un incontournable du GameCube. La porte millénaire, c'est vraiment un incontournable. Autant que les autres RPG comme Batten, Tales of ou Skies of Arcadia, quoi.
D'accord, c'est vraiment peut-être le jeu dans lequel Nintendo se lâche et se permet de tourner un peu en dérision le monde de Mario et de sortir un peu de ces histoires de Mario qui va toujours délivrer la princesse Peach, etc.
Ah bah oui, complètement. D'ailleurs, je pense qu'ils l'assument clairement bien et puis ils le font exprès. Et puis de toute façon, derrière les Paper Mario, il y a un studio talentueux. Intelligent System, qui font d'ailleurs les Fire Emblem aussi pour Nintendo. Et franchement, voilà, ils peuvent se reposer dessus tranquillement parce que eux, ils savent faire du RPG et du bon, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus.
D'accord, donc si ça intéresse les gens, on va les inviter à lire le dossier que tu avais fait sur toute la saga Mario RPG et Paper Mario, donc oui. Depuis l'épisode Super NES jusqu'à l'épisode Wii, il me semble.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais, donc là, vraiment, c'était un dossier très complet, donc on vous invite à le lire si ça vous intéresse. Alors, on va finir donc avec le jeu que tu mets en haut du podium, en haut de ce top 10 de tes jeux qui t'ont le plus marqué, et donc c'est
Super Smash Bros. Melee, tout simplement. Alors, peut-être aussi parce que c'est avec Wave Race le premier jeu que j'ai eu sur GameCube, mais je pense pas parce que c'est un jeu aussi que j'attendais énormément, et là, du coup, pour le coup, avant que la console sorte, je regardais vraiment les magazines, et surtout quand ça parlait de Smash Bros., j'étais impressionné par les images du jeu, quoi. Et puis Smash Bros., c'est quand même le... Pour quelqu'un qui connaît pas Nintendo, il achète Smash Bros. Et ben là, il voit un peu tout le patrimoine de Nintendo depuis plus de 30 ans, quoi.
Enfin, ça, c'est un petit peu un jeu vitrine finalement qui.
Bah oui, complètement. Complètement.
Un cadeau pour tous les fans de Nintendo qui vont pouvoir voir toutes les séries qu'ils ont aimées, toutes les sagas de Nintendo, toutes les licences de Nintendo.
Ah oui, et puis comparé à l'Opus 64 qui n'avait que 12 personnages, on se retrouve avec 25 personnages, dont des cachets. Non, franchement, avec des arènes vraiment énormes, beaucoup plus nombreuses, un gameplay aussi plus dynamique, plus rapide et aussi plus exigeant. Parce que, attention, Melee, c'est peut-être bien sans doute le plus dur de la série. En comptant aussi le Brawl qui est sorti sur Wii, c'est peut-être le plus exigeant. Mais je sais aussi que c'est celui que les joueurs apprécient le plus au niveau du gameplay, le Melee, parce qu'il est beaucoup plus très technique et il est. Le problème de Brawl, je dirais, c'est que les personnages, il y a trop de personnages qui sont beaucoup plus forts que les autres dans Brawl. Je pense tout de suite à Meta Knight ou à comment il s'appelle, Snake aussi. Un peu trop, voilà. Je veux dire, moi, je joue Ganondorf, et ben quand tu fais face à un Snake, t'as pas une chance, quoi, parce que voilà, c'est que des coups. Ganondorf ne possède pas de coups qui projectiles, quoi. Et du coup, Smash Bros Melee, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre au niveau des personnages. Bon, bien sûr, il y a quand même des personnages un peu moyens, comme Rondoudou et tout. Mais bon, on les aime bien parce qu'ils font Rondoudou. Mais c'est tout, voilà. Mais non, je trouvais qu'il était vachement bien équilibré. Et puis franchement, il proposait quand même à l'époque des modes de fou et une durée de vie de malade. quoi. Franchement, il y en avait pour plus. Moi, je me rappelle, j'avais joué sur une partie, j'étais rendu à 600 heures de jeu, j'avais pas fini le jeu. Et j'y jouais. J'ai joué plus de 1000 heures à Smash Bros. Melee. J'adorais ce jeu-là, plus que tout. Et même avec des copains, on pouvait faire des tournois, même. Jusqu'à 64 personnages en tournoi, en se passant les manettes, tout ça, en faisant des 1 contre 1. Mais c'était énorme. Tout ce que proposait Melee comparé à l'Opus 64. Et puis graphiquement, quoi, c'était le début de la GameCube. Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit, quand on a vu tous les jeux qu'on tournait sur GameCube et qu'on jouait à Melee, on voit quand même que finalement, c'est loin d'être le plus beau. Mais bon, pour l'époque, il en voyait quand même bien celui-là aussi. C'était vraiment un super jeu, quoi.
D'accord, donc on sait qu'il y aura également un Smash Bros. Qui arrivera sur Wii U et sur 3DS. Toi, qu'est-ce que est-ce que tu l'attends? Est-ce que t'es toujours fan de la série?
Je suis un peu moins fan depuis l'Opus Wii, mais un peu refroidi, je dirais. Surtout le mode en ligne m'avait refroidi pas mal avec ses bugs, ses plantages. Et moi, j'attendais vraiment quoi. J'attendais juste au moins un mode permettant de se battre, mais aussi d'avoir des statistiques un peu, enfin de savoir combien de victoires on a fait, combien de personnages on a battu, un classement quoi. Et non, rien de tout ça. Donc j'étais un peu refroidi. Et puis le mode online qui laguait. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du solo, il était bien sympa, plus complet. Mais par contre, au niveau du gameplay, je préfère le Melee. Je préfère le Melee. Et puis celui sur Wii U et 3DS. Alors je sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais je sais pas. Je suis pas super confiant en fait sur ce coup-là. J'attends de voir. Peut-être qu'ils vont très bien se débrouiller. Après tout, c'est Nintendo. Après, je me dis faire deux jeux de cette ampleur. En même temps, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Peut-être qu'un seul opus aurait suffi. Je ne sais pas.
D'accord, mais peut-être qu'il y aura une sorte de compatibilité qu'on pourra jouer. On sait que la Wii U, qu'on pourra jouer sur la mablette. Donc finalement, si le jeu, ils font une version sur la mablette, ce n'est pas si éloigné d'une version sur 3DS. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir développer deux fronts, les deux épisodes, et qui seront pleinement compatibles, et que finalement, ça sera un seul et même jeu, à la fois disponible sur Wii U ou sur 3DS.
En tout cas, moi, ce que j'attends, c'est que les personnages ne tombent plus en combat. Parce que ça, c'est vraiment pénible.
Ok, on verra ça. Peut-être pour finir, on sait que Sony, je ne sais pas si tu as suivi ça, a annoncé très récemment un jeu, un petit peu un clone de Smash Bros, mais avec ses licences Sony. Est-ce que tu as suivi cette affaire un petit peu?
Oui, bien sûr, j'ai vu ça. Toujours à la pointe de l'actualité, le Ayu.
Non, mais alors, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense que de toute façon, c'est des jeux qui peuvent que rapporter et faire connaître une marque. Donc je me dis, pourquoi pas pour Sony? Après, de toute façon, c'est du repompage sur Nintendo, mais bon, de toute façon, qui ne repompe pas aujourd'hui? Et puis bon, on verra ce que ça donnera. Bon, moi, franchement, honnêtement, les icônes de Sony, je les connais pas trop, et puis finalement, je m'en passe très bien, quoi. Donc c'est pas un jeu qui va me toucher personnellement. Mais bon, ça peut être sympa. Il y avait eu à l'époque Mod Nation Racers aussi, un petit jeu différent, où justement à la base ils voulaient mettre tous les personnages de Sony aussi dans des cartes et tout, un peu à la Mario Kart, ça ne s'est pas fait. Donc je ne sais pas, mais bon, on verra. Et toi, tu en penses quoi, Moutmat?
J'en pense exactement comme toi, que autant Nintendo a des licences très fortes avec les Mario, les Kirby, Zelda, etc., autant Sony a peut-être eu tendance à un petit peu essorer ses licences en sortant un petit peu trop de jeux, et finalement citer des licences marquantes de Sony, c'est pas forcément un exercice très facile. Donc
oui, moi je vois juste comment il s'appelle le chauve là. Kratos justement, oui. De God of War, mais à part ça, et en plus je trouve pas que c'est des héros qui franchement Bon, je vais pas dire que j'aime pas Sony, hein, parce que c'est pas le but non plus, mais je trouve pas que franchement, comparé à Nintendo, il y a pas photo, quoi. Ben voilà, il y a Miyamoto derrière, alors qu'eux, ils ont personne derrière, c'est tout, c'est comme ça.
Voilà, donc on attendra de voir ce que ça va réserver, en tout cas, cette copie un petit peu de Smash Bros. Alors là, on est déjà un petit peu long. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode et qu'on réserve un quatrième épisode dédié à la GameCube, dans lequel on reviendra sur le bilan de la vie de la console, vraiment sur si elle a marché, etc. Donc rétrospectivement, ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord?
Tout à fait, il n'y a pas de problème. Si ça parle de GameCube, je suis ton homme.
Ok, bon bah alors on vous remercie tous pour votre écoute et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode avec You entièrement dédié à la GameCube. Merci à tous et à bientôt, ciao.